les ateliers de Alala. Les ateliers de Lalala.
Les ateliers de Lalala.
Les ateliers Lalala.
Les ateliers du Pralala.
Les ateliers d'Apralala.
Les ateliers d'Apralala.
La 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 la, les ateliers du pra la la,
les ateliers d'après la
la la.
Timbre FM, la radio où les élèves prennent le micro.
Bienvenue sur l'émission Agir ou Subir. Nous sommes des élèves de 4e du collège Madame de Sévigné à Mauron. Suite à la venue d'une journaliste, Chloé Gwinner, nous avons pu créer des reportages sur le manque d'eau, la déforestation et sur les feux en Australie.
Nous allons maintenant écouter Auxence, Luna et Nora et Océane sur la gravité des feux en Australie.
Sur le 106.6,
l'Australie a chaud.
Quel impact pour l'environnement ?
Alors restez avec nous pour en savoir plus.
Feu en Australie, l'impact des incendies sur l'environnement. En Australie, les incendies ont englouti plus de 8 millions d'hectares. C'est 2,5 fois la superficie de la Belgique. Au sud du continent, la population a été évacuée car les feux devenaient incontrôlables. Notre envoyé spécial Auxence a constaté que la population n'est pas la seule à être impactée par les incendies.
Tout à fait, Océane. Plus de 300 espèces ont vu leur habitat en partie détruit. Selon le commissaire aux espèces menacées du gouvernement australien, 272 plantes et plus de 480 millions d'animaux auraient péri, que ce soit dans les flammes ou par la déshydratation.
L'air est irrespirable et une trentaine de personnes sont mortes. De plus en plus d'Australiens sont en colère face à l'inaction de leur gouvernement.
Oui, d'après certains Australiens que j'ai pu rencontrer, l'État n'agit pas assez contre les incendies. Il ne s'intéresse pas assez à la santé de sa population, gravement touchée par les fumées toxiques provoquées par les feux.
Les dégâts ne s'arrêtent pas à l'Australie. Ils touchent aussi la Nouvelle-Zélande, comme l'explique Enora.
En effet, on a découvert que le glacier de Fern Joseph, situé sur la côte ouest, était brun à cause des cendres. On constate aussi que la fonte du glacier s'accélère.
Malgré ce bilan désastreux, il n'aura fallu que quelques jours de pluie pour que des pousses d'eucalyptus réapparaissent. Ce qui laisse espérer que la nature reprenne le dessus d'ici quelques décennies. Un repeuplement plus facile pour les plantes que pour les animaux.
Nous sommes toujours sur Timbre FM, nous venons d'écouter la gravité sur les feux en Australie.
Nous allons maintenant écouter Brian, Mathéo et Clément qui vont nous parler du manque d'eau sur la planète.
On sait que l'eau a de la valeur.
Arrêtons le gaspillage.
Alors que depuis le mois d'octobre à Mauron, il pleut presque tous les jours, on nous dit qu'il manque d'eau sur la Terre. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Où manque-t-il vraiment d'eau ? Économiser l'eau ici, est-ce utile ailleurs ? Quelles sont les mesures à prendre en urgence ?
Ce sont de grandes questions difficiles. Pour y répondre, nous nous sommes tournés vers M. Besbès. Il est professeur émérite à l'École nationale d'ingénierie de Tunis, en Tunisie. C'est un spécialiste de l'hydrologie des pays arides. Il a accepté de nous répondre.
Comme il nous l'a expliqué, le manque d'eau se situe dans les pays où les précipitations sont faibles. Mais pour pallier ce problème, certains pays ont mis en place des solutions. La première solution est le dessalement de l'eau de mer, la deuxième, le transport d'eau douce, la troisième, le recyclage des eaux usées.
Toutes ces mesures doivent coûter bien cher et représenter un gros budget pour les pays concernés. Peut-on réduire ces dépenses ? Peut-on économiser l'eau ?
L'eau potable doit être très pure. Et si elle ne l'est pas naturellement, comme l'eau souterraine, elle le devient par des traitements physico-chimiques. De plus, entre le captage, le transport, le traitement, le stockage et l'assainissement, la facture est élevée pour avoir de l'eau au robinet. Économiser l'eau, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde.
Mais comme l'indique M. Besbès, c'est peut-être surtout l'eau qu'il appelle virtuelle qu'il faut économiser. C'est cette eau qui est utilisée à la production de l'alimentation, celle qui est nécessaire à la production de notre alimentation et qui représente 95% de nos besoins totaux. Comment, en ayant une alimentation plus équilibrée, notamment moins riche en viande, le produit alimentaire qui consomme le plus d'eau, il faut 20 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf, 10 fois moins pour 1 kg de blé, 100 fois moins pour 1 kg de pommes de terre. Savez-vous qu'un Américain consomme en moyenne plus de 100 kg de viande par an ? Un Africain, moins de 10 kg.
En conclusion, cela nous apprend que l'eau a beaucoup de valeur et qu'il ne faut pas la gaspiller. Un reportage fait par Mathéo, Clément et Brian.
Nous venons d'écouter Artemis de Lisa Sterling sur Timbre FM dans l'émission Agir ou Subir. Nous venons d'écouter un reportage sur le manque d'eau qui nous a appris de nombreuses choses.
Maintenant, nous allons apprendre la gravité de la déforestation.
À chaque arbre coupé,
de l'oxygène enlevé.
Les questions environnementales sont un enjeu crucial pour notre génération et celles à venir. Les arbres, dans toute leur diversité, sont essentiels à la survie des espèces car ils produisent de l'oxygène. Mais l'urbanisation galopante grignote peu à peu sur les forêts qui pour certaines brûlent en ce moment et qui pour d'autres sont coupées massivement.
Oui, la flore est de plus en plus menacée. Que ce soit à cause des sécheresses, de la déforestation ou de la pollution des sols, c'est ce qu'explique Émilie Chenet, une professeure de SVT au collège Madame de Sévigné à Moron.
La déforestation est un véritable problème car de plus en plus de personnes détruisent la forêt pour pouvoir faire de l'agriculture. Et nous savons très bien que les arbres sont importants, notamment pour participer à l'oxygénation du milieu dans lequel nous vivons. Donc plus on enlève d'arbres, plus on réduit la diversité, plus on réduit les habitats des êtres vivants et plus on réduit notre source d'oxygène sur Terre.
Le moteur de recherche Ecosia réinvestit les bénéfices générés par des recherches des internautes pour financer la plantation des arbres. Amélie Delaunay est assistante de vie scolaire au collège. Elle réalise en ce moment une formation en permaculture. Elle défend l'utilisation de ce moteur de recherche.
Utiliser un moteur de recherche avec des valeurs qui assurent en tout cas des missions comme replanter des arbres, oui, c'est utile.
La lutte contre la déforestation n'a jamais été aussi urgente, puisque chaque seconde, c'est une forêt grande comme un terrain de foot qui disparaît de la surface de la Terre.
Reportage de Jérémy Berthil-Souchet, Amandine André et Laura Glou.
Vous êtes toujours sur Timbre FM dans l'émission Agir ou Subir. C'était Laura, Jérémy, Amandine pour expliquer la déforestation.
Place à Lilou et Nora, Elia Rose et Célia qui vont nous expliquer la situation de la forêt amazonienne.
Sans arbres, il n'y a plus d'oxygène.
Sans oxygène, il n'y a plus de vie.
Restez avec nous pour en savoir plus sur la forêt amazonienne.
Nous avons décidé de travailler sur la forêt amazonienne.
C'est un sujet d'actualité qui nous a particulièrement interpellés. Il nous semblait important d'en parler et de partager les informations que nous avons obtenues sur ce sujet.
Nous avons interviewé Johan Oswald, spécialiste des forêts tropicales et professeur de géographie à l'université Rennes 2.
Johan Oswald, directeur de l'UFR Sciences Sociales, professeur de géographie à l'université Rennes 2 et spécialiste des forêts tropicales et notamment des fronts de déforestation.
Alors, pensez-vous que nous pourrions arrêter les feux à temps de la forêt amazonienne ?
À temps, c'est-à-dire à quelle temporalité ? Qu'est-ce que vous craignez ?
Que la forêt elle soit complètement brûlée.
La question des feux en forêt amazonienne, elle est très très complexe. Vous voulez une réponse détaillée ou très courte ? Arrêter les feux en forêt amazonienne, ce serait changer de paradigme à l'échelle économique internationale, ce qui paraît peu réaliste dans le contexte actuel et peu réaliste à horizon moins de 10 ans, voire même moins de 20 ans. Sans vouloir être défaitiste, la forêt amazonienne va encore brûler un moment.
Est-ce que vous pensez que nous pourrions replanter des arbres et reconstruire la forêt amazonienne ?
En fait, la forêt amazonienne, elle subit un front de déforestation, que ce soit dans les états du Mato Grosso, le Mato Grosso do Sul, dans les années 70, ou au Pará, plus récemment. Une forêt, ça peut se couper assez rapidement, c'est-à-dire que sur un cycle de front de déforestation, la forêt elle peut être coupée en quelques années. En moyenne, ça va prendre 7 ans entre la dévitalisation de certains arbres qui sont pris pour l'industrie du bois et puis l'installation des agriculteurs, soit pour mettre en place du soja, soit pour mettre en place des pâturages pour la culture de la viande, enfin pour l'élevage. Par contre, une forêt, elle a besoin d'à peu près 70 à 100 ans pour se reconstituer. Donc, En fait, on peut replanter des arbres, mais en replantant des arbres, on ne replante pas une forêt. Il faut beaucoup de temps pour que la forêt retrouve un équilibre. Donc, planter des arbres est un premier pas. Malheureusement, aujourd'hui, l'avancée de la déforestation est plus rapide que les politiques de reforestation. Donc, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Donc, planter des arbres, oui, c'est une bonne chose. Mais malgré tout, il faut que le système puisse s'équilibrer et vu la rapidité de l'avancée de la déforestation aujourd'hui, c'est un pari compliqué.
Combien faudrait-il financer pour stopper les feux ?
C'est une question intéressante. Il y a un chercheur brésilien qui travaille avec Farid Ulrich du King's College qui présentait dans une émission récemment des résultats de leurs travaux où finalement ils proposaient de mettre en place une taxe pour les forêts tropicales sur les barils de pétrole. Si c'était le cas, ça permettrait d'avoir un fonds d'investissement pour l'ONU qui serait suffisant pour lutter contre la déforestation. Malheureusement, l'argent est un enjeu, mais ce n'est pas l'enjeu le plus direct quant à la protection de la forêt amazonienne. Il y a aussi des enjeux politiques d'appropriation de ce territoire par l'État brésilien. Il y a des politiques d'appropriation pour se protéger contre des vérités extérieures d'appropriation de la terre. Tout le combat qui s'est mis en place entre Macron et Bolsonaro l'été dernier en est un exemple. Macron s'achetant une sorte de sauf-conduit politique à l'international en essayant de combattre notamment des dérives entre guillemets environnementales, Bolsonaro pouvant jouer sur le nationalisme et la politique identitaire sur ce jeu-là pour défendre une politique intérieure qui malheureusement ne fait pas décoller économiquement le pays. Donc on est d'abord sur des clivages politiques et sur des luttes politiques. Après, la forêt amazonienne, elle rapporte quand même beaucoup d'argent au système international de par sa transformation, notamment pour le soja et avant tout pour la mise en place de viande bovine.
Que pourrons-nous faire pour arrêter cela ?
L'augmentation de la population mondiale, le sort du néolibéralisme, donc toute l'économie qui s'est mise en œuvre depuis les années 70, depuis le consensus de Washington, a promeu un système libéral qui garantit l'accès à tous les produits, à toute personne dans le monde, et donc à une liberté économique qui ne s'était encore jamais vue dans l'histoire de la société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui ne mangeaient pas de viande, qui aujourd'hui s'en achètent et qui aujourd'hui en consomment, ce qui fait que on est obligé de déplacer les pressions qu'on mettait sur des territoires, notamment dans les pays du Nord. Vous avez vu en cours la triade, les États-Unis ou l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, la Chine, qui sont les plus grandes économies mondiales. Elles n'ont plus assez de territoires pour développer leur économie, et donc elles externalisent, elles développent des entreprises dans d'autres pays. Et pour l'agriculture, les zones où il reste encore beaucoup de terres à conquérir pour les transformer et en faire des terres nourricières pour la planète sont dans les grandes forêts tropicales, que ce soit la forêt indonésienne, que ce soit la forêt du bassin du Congo, que ce soit la forêt amazonienne. Donc il est à craindre que tant que ce système économique perdure, en fait, il n'y aura pas de changement dans la coupe des grandes forêts tropicales. Et malheureusement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore pas mal d'animaux qui disparaissent. Sûrement l'orang-outan demain. En tout cas, il vivra plus en dehors des réserves. Le tigre, bien sûr. Et puis d'autres grands animaux qui sont en train de s'éteindre en silence, comme le tamanoir dans la forêt amazonienne.
D'accord. Et selon vous, votre avis, vous pensez qu'il y a encore un espoir ?
C'est propre de la nature humaine de croire qu'il y a toujours un espoir. Mais si on veut qu'il y ait un espoir, et notamment pour vos générations et pour vos futurs enfants, d'avoir une planète dans laquelle vous pouvez vivre sereinement, ce serait qu'il y ait un changement majeur des pratiques économiques et une plus grande attention qui soit portée aux écosystèmes, terrestres comme marins d'ailleurs.
Merci pour de nous avoir répondu à notre question.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour l'interview.
C'est un interview de Célia, Enora, Lilou, Elia Rose avec la participation de Joanne Oswald.
C'était Agir ou Subir sur Timbre FM. Merci aux auditeurs, à la radio
et au collège Madame de Sévigné qui a organisé le projet. Au revoir et à bientôt.
Les apprenants de Alala. Les A. ateliers de la la la.
Les ateliers de la la la.
Les ateliers la la la. Les ateliers du la du fra la la.
Les ateliers d'apra la la la.
Les ateliers d'apra la la.
La 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 la, les ateliers du pra la la, les ateliers d'après la la la.